Oh, mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir kis sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 18 novembre. Aujourd'hui, eh bien, on va parler principalement de pollution et de la police, dans l'ordre que vous voulez et avec les liens que vous y voulez, puisqu'en effet, ce sont pas mal des dérapages de la police et des réactions justement du préfet ou médiatiques que nous allons un petit peu décrypter. Plusieurs choses se sont passées de ce côté-là. Et au niveau pollution, eh bien, on va parler pollution de l'air, de l'eau. Et puis voilà, et puis du monde entier, pas que de la France malheureusement, avec notamment l'ouverture de la COP30 qui ravive aussi pas mal de questions, notamment celle du colonialisme chimique. On part d'abord sur ces scandales qui secouent la société et un peu pas mal le monde médiatique aussi, avec encore un cas de violence policière avérée, hein. Une femme a été tabassée, le crâne fracturé, c'était en 2018, pendant une manifestation, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, hein, en décembre 2018. Un policier vient de reconnaître avoir menti sous la pression pour protéger ses collègues. Une nouvelle révélation dans cette affaire qu'on appelle Angelina, hein, c'est le prénom de substitution qui est donné à cette victime. Un policier, donc Christophe, c'est son prénom, reconnaît en effet avoir menti à la justice, et c'est dans un rapport administratif révélé par le journal Mediapart ce dimanche que cette révélation a explosé. Ce policier donc affirme avoir été mis sous pression par le syndicat de police Alliance pour ne pas révéler l'identité des collègues qui ont violenté donc cette jeune femme qu'on appelle Angelina. Donc c'était le 8 décembre 2018, cette jeune femme passe à proximité d'une manifestation des Gilets jaunes, c'est à Marseille, elle est de retour du travail, elle reçoit alors un tir de LBD, donc de flashball de lanceur de balles de défense, et ensuite elle sera rouée de coups de pied et de coups de matraque par les policiers. Ces violences, donc très violentes, hein, lui causeront une fracture du crâne, des contusions au cerveau, et toujours de multiples complications, on en est à 7 ans après les faits. Si vous cliquez sur les articles qui en parlent, vous verrez une photo de la cicatrice qu'elle a. Elle a vraiment le crâne fracturé de haut en bas, avec des points de suture tout le long. À partir de 2019, donc pour cette affaire de bavure, comme on dit normalement, le parquet confie une enquête à l'IGPN, hein, l'inspection de la police nationale. Et à l'époque, eh bien, les différents policiers auditionnés vont tout nier en bloc, ce qui aboutira à un non-lieu par deux fois. Une nouvelle juge reprend finalement le dossier en 2023 en relançant les investigations. Et ainsi, depuis le mois d'octobre dernier, six policiers sont mis en examen dans cette affaire, dont le Christophe en question. Eh bien, les révélations de celui-ci agissent comme un séisme, puisqu'il est passé aux aveux, il met en cause sa hiérarchie. Il explique que ses supérieurs ont tenté de dissimuler l'affaire. Donc c'est toujours d'après lui, hein. Et avant donc son audition par l'IGPN, qui a fini par faire son boulot, il raconte avoir été par exemple convoqué par le numéro 3 du service dans le bureau du syndicat Alliance, et donc le délégué départemental de ce syndicat majoritaire, qui était alors Rudy Mana, lui aurait dit de ne pas donner une version contradictoire à celle du capitaine, ni d'ailleurs à celle de son collègue. Et donc en décembre 2019, pour ne pas causer de problème à son collègue, hein, ce fameux Christophe, qui finit de lâcher le morceau aujourd'hui, ni sa présence et ni la présence de ses coéquipiers au moment des faits. Il déclare d'ailleurs ne pas se reconnaître sur les vidéos. « J'ai menti », dit-il, « conformément aux déclarations de mon capitaine », c'est ce qu'il explique donc aux médias d'investigation Mediapart. Ces propos donc revêtent un caractère exceptionnel, puisque c'est d'abord la première fois, suite à deux non-lieux, qu'une instruction est quand même ouverte malgré tout par la justice, parce que les faits, là, visiblement, étaient un petit peu quand même trop explicites. C'est très rare, disent-ils en plus, qu'un policier passe aux aveux et documente l'impunité en interne, et comment les policiers se protègent entre eux. C'est l'une des premières fois que c'est expliqué aussi précisément, explique le journaliste, la journaliste Pascale Pascarello, qui travaille chez Mediapart et qui a donc fait ses révélations. Là, c'était au micro de France 3 Provence-Alpes. L'instruction est donc toujours en cours, et l'ouverture d'une nouvelle enquête résulte aussi du travail et de l'obstination de l'avocat de la victime, qui s'appelle Brice Gradini. Et donc, là, vous l'aurez compris, d'une volonté de la justice de ne pas laisser passer des violences gratuites impunies. Je vais faire beaucoup de demandes d'actes. Donc, c'est la démarche qui consiste à demander au juge d'instruction de faire un acte, ce qui va permettre de démontrer la culpabilité d'une personne mise en cause. Ça, c'est l'avocat qui explique sa stratégie en prenant un rôle d'enquêteur, car ceux à qui revient ce rôle, donc la police, ne vont pas au bout des choses. Il faut bien que quelqu'un le fasse, explique l'avocat de la victime. Les avocats des mises en examen ont été contactés par la presse. Eux, ils n'ont pas donné suite aux sollicitations de Mediapart, notamment Rudy Mana, qui était alors, délégué du syndicat, l'ancien porte-parole d'Alliance. Depuis, il a quitté ce syndicat et repris du service à la brigade maritime de Marseille. Lui non plus n'a pas voulu répondre aux questions. Et à Mediapart, il a confirmé avoir rencontré en 2019 certains des policiers auditionnés par la justice dans cette affaire pour les aider, dit-il, tout en réfutant les avoir dissuadés de parler. L'instruction, je vous le dis, pour l'instant, elle est toujours en cours.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur actuel, Laurent Nunez, annonce qu'il porte plainte contre l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré suite à la diffusion d'une chronique, c'était sur Radio Nova ce dimanche, dans laquelle l'humoriste comparait la police et la gendarmerie à l'organisation État islamique Daesh. Cette plainte a été adressée au parquet de Paris donc dès hier soir. Dans la chronique, qui est toujours disponible sur les réseaux sociaux, d'ailleurs elle fait de très belles vues, donc sur Radio Nova, Pierre-Emmanuel Barré évoque d'abord une affaire de viol aggravé, dont deux policiers de Bobigny sont suspectés, mais il évoque aussi un autre policier qui aurait pénétré sexuellement une touriste alors qu'elle était à l'arrière de sa voiture et menottée. Là, le policier a d'ailleurs reconnu les faits, et donc il fait un petit peu dans le sac tous ces scandales qui concernent la police dans la semaine, et il continue avec la révélation des images des violences autour de la manifestation contre les méga-bassines. C'était à Sainte-Soline. Écoutez, je vous passe l'extrait tout de suite, comme ça, vous en jugerez vous-même.
C'est normal. C'est normal, les flics et les gendarmes, ils adorent les manifs, ça les change. C'est le seul moment de l'année où ils tirent sur autre chose que des Noirs et des Arabes. Et alors, il y a un moment magique. Alors, enfin, tragique, mais magique. Il y a un cortège de manifestants tout mignons qui arrivent avec des familles, des enfants, des babos sans sarouel, des couronnes de pâquerettes. T'as le chef de section qui voit que le danger est réduit. Il dit, on tire pas, hein. Et là, t'entends, ta-da-da-da-da-da-da-da. Et le mec fait, putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi? Mais oui! Mais oui! Et violent, en plus! C'est les deux critères de base pour devenir flic! Et si en plus tu sais compter que t'as ta carte ORN, tu passes directement brigadier. Non, j'abuse. Mais le souci, c'est qu'il n'y a jamais un ministre de l'Intérieur qui a réussi à reconnaître l'existence de violences policières généralisées. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que le nouveau ministre, Laurent Nunez, à propos du carnage à Sainte-Soline, a parlé d'un petit manquement à la déontologie et de gestes qui pourraient ne pas être proportionnés. Après, on ne s'attendait pas à des miracles. C'est l'ancien préfet de Paris. C'est grâce à lui que les ophtalmos parisiens ont triplé leur chiffre d'affaires pendant les Gilets jaunes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et bien, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais, présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense ! Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté.
Pierre-Emmanuel Barré. Merci Pierre-Emmanuel, qu'on reprend en tournée dans toute la France.
Voilà une chronique que vous pouvez retrouver en intégralité, elle fait 5 minutes, j'ai un petit peu coupé, mais vous avez entendu, en tout cas c'est la dernière phrase qui est restée et qui a fait l'objet de la plainte, pas forcément l'insulte qui précédait, où il dit donc la police est Daesh avec la sécurité de l'emploi, donc c'est ça que Laurent Nunez a porté devant la justice du côté de l'employeur, donc Radio Nova. Elle a réagi immédiatement avec un communiqué transmis à l'AFP en soulignant son engagement pour la liberté d'expression et en affirmant qu'elle n'accepterait aucune menace de quelque nature que ce soit sur ses humoristes et ses collaborateurs. Le syndicat de police Unité, lui, a dénoncé des propos immondes et à vomir, et dans le même temps, le syndicat donc appelé l'ARCOM à des poursuites judiciaires. Si cette chronique dérange, c'est aussi pour son timing, hein, puisque ça s'inscrit dans la semaine de commémoration des 10 ans des attentats de Paris le 13 novembre 2015. La radio, elle, toujours dans le communiqué, s'en est défendue en écartant tout lien entre les deux événements. Et puis d'ailleurs, Pierre-Emmanuel Barret, lui, faisait lien avec l'anniversaire des Gilets jaunes, qui a aussi été célébré cette dernière semaine. La polémique rappelle d'autres tensions récentes entre des élus et des institutions. Hein. Au mois d'août, Laurent Nunez avait déposé plainte contre un député insoumis, Ali Diouara, pour des propos sur les violences policières. Quelques jours avant, une autre procédure similaire contre Aurélien Taché dans le Val-d'Oise. Selon Radio Nova, dans son communiqué, une société libre n'a rien à craindre du rire. Le bras de fer donc entre l'humoriste et le préfet pourrait bien devenir un nouveau symbole des tensions entre humour engagé et cadre légal. Et pour rappel, quand même, toute cette bande de l'émission la dernière s'est retrouvée là suite justement à en tout cas un non soutien de la part de leur employeur de l'époque, France Inter, suite là aussi à des blagues jugées de mauvais goût. En tout cas, on continue avec ces révélations autour de la police, hein, puisqu'il y en a en effet pas mal en ce moment. Donc là, les humoristes en parlent, mais il faudrait aussi que les journalistes en parlent de manière conséquente. Dans le sillage de l'enquête de Libération sur le MeToo Police, le hashtag MeToo Police, et dans l'enquête du média Disclose qui a été publiée en parallèle, c'est le collectif féministe Nous Toutes qui publiait donc ce samedi, le 15 novembre, une étude inédite qui met en lumière des violences sexistes et sexuelles commises par des forces de l'ordre, principalement sur des gens qui sont venus dans le cadre d'interpellation ou de poser plainte, mais aussi en interne. Les témoignages sont glaçants, l'enquête a été publiée, elle démontre et analyse donc les violences sexistes et sexuelles commises par des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions. Et sans surprise, les femmes ou personnes issues d'une minorité, hein, qu'elles soient une minorité de genre ou toute autre minorité racisée, etc., eh bien, sont surreprésentées dans les témoignages. Donc avec ce MeToo Police, le collectif Nous Toutes veut faire la lumière sur les violences sexuelles policières. Pour ce faire, ce collectif a recueilli 207 témoignages de violences entre juin et octobre 2025, hein, donc de cette année, des victimes ou alors des témoins ou des proches via simplement un questionnaire. Les résultats sont accablants. Hein. Ça va dans les faits de la parole sexiste jusqu'au crime, hein, donc on parle de viol, en passant par la dissuasion à porter plainte contre un agresseur d'environ 9 témoignages sur 10. Sans surprise, là encore, l'agresseur est un homme. Et la majorité des auteurs, hein, quasiment 50%, exercent donc dans la police nationale. Pour les chiffres, encore 18% sont dans la gendarmerie, 15% dans la police municipale. Si on reste sur les résultats de cette petite étude, 60% des témoignages reçus font état de violences sexuelles, que ce soit de l'agression, du harcèlement, de l'exhibition sexuelle ou du viol. Et à la base, eh bien, les victimes étaient principalement venues porter plainte pour des violences conjugales souvent, ou alors se retrouver en garde à vue, ou participer à une manifestation. On note quand même que 42% des victimes de ces mauvais traitements étaient venues à la base chercher de l'aide, justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre ? Justement, 35% de ces victimes étaient là et les faits sont survenus quand le dépôt de plainte ou de la main courante concernait justement des faits de violence et 11% quand il s'agissait d'autres faits. Et voilà, et pour terminer, donc je parlais de l'interne aussi, hein, puisqu'il y a le hashtag MeTooPolice qui lui aussi existe maintenant sur les réseaux sociaux et qui vient corroborer ses études. 6% de ces témoignages font état de violence dans le cadre professionnel, donc en tant que membre des forces de l'ordre, hein, ce qui confirme ce qui a été déjà publié en juin par Disclose et Libération avec ces deux enquêtes sur les violences sexuelles au sein des forces de l'ordre, qui faisait état de plus de 400 personnes, en très grande majorité, là encore, des femmes, qui avaient déclaré avoir été harcelées, agressées ou même violées par des membres des forces de l'ordre, donc des collègues, au cours de ces 12 dernières années. Ce collectif Nous Toutes, hashtag Nous Toutes, donc précise qu'il s'agit d'une enquête militante, hein, qui n'a pas vocation à produire un échantillon représentatif. En effet, 200 personnes, ça peut ne pas suffire pour des statistiques valides vraiment, mais bon, c'est déjà un gros boulot, et cela cherche à apporter des données complémentaires pour mieux comprendre et combattre le phénomène systémique des violences policières.
À la boulette.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
Voilà, on termine avec un petit peu d'humour, mais toujours dans la thématique, hein, humour et police. Une info qui, elle, pour le coup, avait vraiment le bon timing, hein, quand on parle de Pierre-Emmanuel Barré et de sa comparaison avec Daesh. C'était à Champigny-sur-Marne, hein, ça remonte au 7 novembre dernier, mais l'affaire a mis un petit peu de temps à remonter. Des parents d'élèves ont déployé des banderoles devant l'école pour réclamer davantage d'accompagnement pour les enfants en situation de handicap. Hein. Ils n'en ont pas assez, des AESH, vous connaissez sûrement ce sigle. C'est à l'école Simone Veil de Champigny-sur-Marne, donc une petite action des parents d'élèves le vendredi. Il manque 10 postes au sein de l'établissement, selon le syndicat, donc des postes d'AESH. Et bien là, 3 policiers municipaux interviennent pour retirer les banderoles parce qu'ils ont vu AESH et ils ont trouvé que ça ressemblait trop à Daesh, où quelqu'un leur a dit, il y a écrit Daesh sur la banderole. Donc ils ont décroché ces banderoles du mur de l'établissement, avec qui avait écrit SOS AESH, et l'école a besoin d'AESH. Et là, ils ont vu écrit Daesh. C'est le syndicat FSU SNUIPP du Val-de-Marne qui a confirmé ça. Et donc les policiers estiment qu'il pouvait y avoir une ambiguïté entre le sigle AESH et l'organisation Daesh. Selon la mairie, l'absence d'autorisation préalable à cette action justifiait aussi l'intervention sur un bâtiment municipal accueillant des enfants. Donc la mairie, couvre et valide l'action. Cette affaire prend une petite dimension politique et humoristique à l'approche des municipales, puisque le futur candidat du Parti communiste, hein, qui est tête de liste Agir Ensemble, Julien Léger, pour cette circonscription, a dénoncé des faits graves et inacceptables sur sa page Facebook. On passe au deuxième volet de ces nouvelles du monde, de la pollution, et notamment, on va parler tout d'abord de l'amiante, et de l'exposition des travailleurs du site ArcelorMittal, c'est pas loin d'ici, hein, Fos-sur-Mer, sur la route avant Marseille. Bien, l'État vient de refuser les demandes de la CGT. Le site Arcelor compte 2300 salariés et il exposerait son personnel à l'amiante, d'après la CGT en tout cas, qui a été reçue hier au ministère du Travail. La CGT réclamait donc le classement de cette usine comme un site amianté et donc derrière, eh bien, des droits à la retraite anticipés pour tous les salariés exposés. Eh bien, les représentants du ministère ont refusé. Ils ont signifié le refus de l'État. La CGT a malgré tout demandé un délai supplémentaire pour fournir de nouvelles preuves. Et dans la soirée, le ministère a fini par accorder ce délai. Donc, pour l'instant, la décision est suspendue. Une première demande, à noter, avait déjà été effectuée dans les années 2000 et refusée. Hein. Ce dossier réapparaît régulièrement. Et pour l'instant, n'aboutit pas, en tout cas, dans le sens de la protection de la santé des travailleurs. En effet, selon la Direction Générale du Travail, vu les pièces présentées, cette demande d'inscription ne répond pas aux critères qui sont fixés par la loi pour bénéficier donc de cette cessation anticipée d'activité au titre des travailleurs de l'amiante. C'est ce qu'on appelle la CATA, avec deux A. La CATA, c'est pas mal comme acronyme quand même quand on parle du scandale de l'amiante. Le secrétaire général CGT pour ArcelorMittal à Fos, Stéphane Martins de Araujo, ne cache pas donc sa déception à la sortie du ministère. On nous a dit qu'on n'avait pas de chiffres significatifs. 620 salariés, 30% de personnes exposées. Si ça n'est pas significatif, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont ces mots donc. Et il explique ainsi que l'an dernier, une centaine de salariés ont fait l'objet d'un suivi renforcé. Sauf que d'après la direction, ce suivi médical, c'est juste de la prévention. Et cela n'indique pas qu'il y a eu une exposition au risque d'amiante. Dans un communiqué d'ailleurs envoyé à Ici Provence, hein, la direction d'ArcelorMittal a rappelé que les salariés de l'établissement de Fos-sur-Mer n'effectuaient pas de travaux de calorifugage sur des matériaux qui contiennent de l'amiante. Et donc, ça serait pour eux la seule situation d'exposition. En tout cas, c'est celle que reconnaît en effet la loi. Pas de quoi convaincre les syndicalistes qui demandent donc à l'État de prendre ses responsabilités, de taper du poing sur la table et de demander à un milliardaire, donc il parle de ArcelorMittal, de respecter les salariés. Donc la CGT y voit ainsi le combat de David contre Goliath. Et donc je vous rappelle que cette CATA, c'est un dispositif donc de réparation collectif qui va permettre à un salarié de partir à la retraite au plus tôt à partir de 5 ans et dont le bénéfice d'ailleurs ne dépend pas de savoir si on est atteint ou pas d'une maladie liée à l'amiante. Indépendamment de la procédure, les travailleurs malades peuvent aussi obtenir à titre individuel la réparation du préjudice via la branche accident du travail ou maladie professionnelle. On reste dans le cadre de ces pollutions industrielles avec une action qui a été menée hier matin à l'aube. On est en Normandie. Des centaines de militants ont fait bloquer l'usine du géant agrochimique BASF. Ils entendaient avec cette action dénoncer la production d'un pesticide qui est interdit en Europe, mais qui est exporté vers, on appelle ça le sud global, hein, les pays pauvres du monde. Ils dénoncent ainsi un colonialisme chimique. C'est donc hier que ça s'est passé. On est à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, au sud de Rouen. Une vingtaine de militants du mouvement Faucheurs Volontaires s'introduisent sur le site qui est classé Céveso Seuil Haut, hein, haute dangerosité Céveso, et leur but c'est de réaliser une inspection citoyenne des produits qui sont présents. Cette inspection donc, du géant de l'agrochimie BASF, c'était l'objectif final de l'action, à laquelle se sont d'ailleurs joints au matin des centaines de militants d'organisations écologistes qui, eux, ont bloqué les entrées et puis permis ainsi l'action et permettre aussi un retentissement médiatique. Étaient présents des Faucheurs Volontaires, aussi des membres des Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion, mais aussi la Confédération Paysanne et des victimes des pesticides. On peut signaler Cancer Colère, qui est un collectif de soutien aux victimes des pesticides dans l'ouest de la France. Peu avant 8h du matin, donc une marée de combinaisons blanches déferle sur l'entrée du site, où se trouvaient déjà quelques tracteurs qui avaient placé des bottes de foin et déversé de la terre pour interdire l'accès. Une fois la barrière entrouverte à la force des bras, donc ces faucheurs volontaires introduits dans le site se dirigent vers le bâtiment 120. Ils avaient visiblement des informations. Et à l'intérieur de ce bâtiment, d'ailleurs, bingo, puisqu'ils découvrent des dizaines de cartons avec une inscription dessus, Fipronil Technical Reagent Technico. Pas de doute donc, il s'agit bien du principe actif d'un insecticide qui est commercialisé en enrobage de semences sous cette appellation Reagent. Et c'est donc BASF, le chimiste allemand, qui le produit. Et pourtant, ce produit est interdit dans l'agriculture en France et dans tout le reste de l'UE, notamment pour ses dégâts sur les abeilles. D'ailleurs, un salarié qui était présent sur place commentait ensuite aux journalistes « Je comprends leur action, l'enjeu est lourd. » Il dit « Je vois bien les informations passer sur ces produits et moi-même, j'ai peur pour ma santé en travaillant ici, mais je ne peux pas mettre ma carrière en jeu », expliquait-il. Rapidement sur place, les militants ont été rattrapés et malmenés par la police, hein, mis à terre pour certains, sollicités par le journal Reporter, qui fait le récit de l'action dans ses colonnes aujourd'hui. L'entreprise n'a pas répondu aux questions concernant justement la découverte qui a été faite, hein, de ce stockage de fipronil, ni d'ailleurs sur la quantité qui était produite sur l'usine, puis stockée, puis expédiée depuis leur site. En revanche, eh bien, le service de communication a annoncé ça, qu'une plainte serait déposée prochainement contre donc, les personnes qui se sont introduites sur le site. Ce gros dossier ne date pas d'hier. Déjà en juin de cette année, les faucheurs volontaires avaient identifié la présence d'un autre insecticide prohibé en France, qui s'appelle le Fastac, sur un autre site de toujours BASF, mais cette fois-ci dans une usine du côté de Lyon. Et d'ailleurs, eh bien, cette découverte, grâce à leur action militante, avait conduit à une inspection des services de l'État. Maintenant, si des militants ou des journalistes, visiblement, ne font pas le job, les procédures légales de contrôle sont inopérantes. Sur ce site de normand, donc de BASF, hein, d'où sortent annuellement 1500 tonnes de produits phytosanitaires, reste à déterminer si la marchandise qui était stockée était uniquement la substance active, le fipronil, ou bien le produit fini, qui s'appelle le Reagent. Cette information, en effet, n'est pas anodine, hein, ça le sera même décisive, puisque la loi, qu'on appelle la loi Egalim, interdit depuis 2022 la production, le stockage et la circulation en France de produits qui contiennent des substances actives non approuvées en Europe, hein, des produits phytopharmaceutiques. Donc d'avoir rien que dans des paquets chez soi, enfin sur son entreprise, ces produits est interdit. Donc l'interdiction Egalim concerne bien la marque, le produit fini, le Reagent, et pas la substance active. C'est là la grosse faille, hein, une grosse faille exploitée d'ailleurs par les industriels pour expédier bien des substances interdites en dehors de l'Europe, et ce en toute légalité malgré leur dangerosité avérée. Et donc BASF d'ailleurs ne se cache pas, hein, c'est écrit sur leur site, de commercialiser le fipronil pour les marchés brésiliens, notamment dans la culture de canne à sucre, du soja, pour les marchés nord-américains, dans le traitement des termites, ou japonais, pour le riz, et ils disent même des marchés européens. Et les produits qui sont produits ensuite dans ces pays, par exemple la canne à sucre, le soja, mais il y a eu aussi un scandale sur les lentilles récemment avec un autre produit, après, vous pouvez les retrouver, eux, dans les rayons de vos supermarchés. Donc il faut bien regarder, il y a des enquêtes qui font très bien le boulot, justement. On peut manger donc ces produits interdits, puisqu'ils ont été produits chez nous, des fois répandues dans les champs d'un autre bout de la terre, parfois même, par exemple, au Canada, pour ce qui était des lentilles, et ensuite vous les retrouvez eh bien, dans les rayons d'Intermarché, par exemple. Donc voilà pour cette action BASF. Hein. Une délégation de faucheurs volontaires, d'ailleurs, concernant cette loi Egalim, sera reçue le 4 décembre par des députés pour essayer justement de colmater ces trous dans la raquette de la loi Egalim, si le lobby en face n'est pas trop puissant. Alors les usages agricoles de ce fipronil, donc vous l'avez compris, sont interdits à cause du risque aigu notamment de mortalité pour les abeilles. Mais ce produit est quand même présent hein, dans de nombreux produits chez nous. Par exemple, des antiparasitaires pour les animaux de compagnie, hein, chats et chiens, ou dans des produits à usage domestique contre les infestations, je pense dans les sprays et autres fumigènes pour les puces, les punaises, etc. L'Agence indépendante d'ailleurs de protection de l'environnement des États-Unis classe le fipronil comme un cancérogène possible. Pensez-y à deux fois quand vous vaporisez des antiparasitaires. Selon la fiche toxicologique qui est produite par l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, donc chez nous en France, ce produit est également très toxique pour les organismes aquatiques. Ainsi, en juin 2025, cette association ont déposé une plainte pénale contre le géant chimique allemand BASF en raison des rejets massifs dans la Seine du TFA, c'est l'acide trifluoroacétique, hein, ces fameux polluants éternels, qui fait partie de ce qu'on appelle les PFAS, les PR et polyfluoroalkylés, qui sont utilisés dans la fabrication de ce fameux fipronil. Hein. On est complètement dans la thématique là, des polluants éternels. Les effets nocifs de ces produits ne sont pas que théoriques, hein, puisque, par exemple, dans cette action là, de hier matin, était présent un médecin généraliste de la Charente qui a témoigné et qui tenait donc à sortir de sa réserve. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Alerte des médecins sur les pesticides. Et ce collectif est né du constat qu'on voit, disent-ils, dans nos cabinets, de plus en plus de cas de cancer pédiatrique, des enfants avec des cancers, des troubles du neurodéveloppement aussi et de l'infertilité. Face à cette épidémie qui est liée aux facteurs environnementaux, dit-il, il appelle à revoir la réglementation, notamment en prenant en compte les effets cocktail, c'est-à-dire que des fois les produits sont testés de manière individuelle et qu'on leur permet donc des taux légaux assez élevés, mais que dans la vraie vie de tous les jours, eh bien, on en prend un petit peu de chaque et en pas mal de doses, et des fois entre eux, ça accentue beaucoup des effets et c'est très compliqué à mesurer. Donc on va dire que le principe de précaution serait quand même le plus simple pour déjà le temps de qu'on y voit un petit peu mieux au niveau épidémiologique. Chaque particule de PFAS qui est produite dans cette usine restera parmi nous des centaines, voire des milliers d'années, jusque dans nos cellules, pour détraquer le fonctionnement même de la vie. Ce sont les mots de Fleur Breteau, qui fait partie du collectif Cancer Colère, et pour elle, cette entreprise est une fabrique de maladies. Les militants et les victimes des maladies liées à l'exposition aux pesticides sont d'autant plus remontés que le chimiste BASF met par ailleurs en avant, sur son site notamment, une production de composants contre le cancer. Répandre des poisons, puis soigner les maladies qu'ils provoquent, c'est un business indigne, réagit ainsi la porte-parole, et elle mâche ses mots. 4500 plaintes dans le monde ont été déposées d'ailleurs dans le monde contre BASF, en raison des contaminations qui sont liées aux PFAS qui sont rejetées dans l'environnement. En plein moment de la COP30 à Belém au Brésil, l'action se veut donc aussi une action internationaliste et décoloniale. C'est ce qu'expliquait un militant des soulèvements de la Terre présent sur place. Au cours des prises de parole qui ont lieu devant l'usine hier matin, une lettre a été lue, une lettre signée par des mères brésiliennes qui sont de l'état de Ceará, au nord-est du Brésil, et elles luttent elles aussi contre l'épandage des pesticides par les drones. Elle conclut « Entendez-vous le cri qui viennent des communautés les premières touchées ?» Les pesticides les plus toxiques sont en effet exportés depuis l'Europe vers le sud global et tout ça s'appelle du colonialisme chimique. Ce sont les mots de Morgane Audi, la coordinatrice générale du mouvement paysan international Via Campesina, qui est représentée au Brésil par une délégation à la COP30. Mais dit-elle, si ces produits sont dangereux pour nous, ils le sont aussi au Brésil, au Mali ou en Indonésie. Cet article termine en annonçant que les soulèvements de la Terre eh bien, sont en train de travailler sur une publication qui va arriver très bientôt, une carte de la France avec les sites de production et de stockage des pesticides, une carte qui sera bientôt diffusée publiquement sur Internet. Ils encouragent ainsi, là, vous l'aurez compris, indirectement l'organisation d'actions, légales ou pas, pour faire appliquer la loi. Vous voyez où est-ce qu'on en est rendu.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on va terminer avec une bonne nouvelle quand même. Grâce à l'interdiction des néonicotinoïdes, les oiseaux iraient un petit peu mieux sur le sol français. Une lueur d'espoir donc dans les champs. Cette interdiction des pesticides néonicotinoïdes a bien des effets positifs sur les oiseaux. C'est une première étude qui vient d'être réalisée, publiée dans la revue Environmental Pollution. Eh bien, on y apprend que les populations d'oiseaux insectivores semblent se rétablir timidement suite à l'interdiction donc, de certains insecticides tueurs d'abeilles, notamment dans les champs. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont intéressés à l'imidacloprid, qui est le néonicotinoïde le plus vendu en France. C'était avant l'interdiction qui date de 2018. Et ils ont étudié donc l'abondance des oiseaux avant et après le bannissement du produit. Ils se sont concentrés sur 57 espèces d'oiseaux insectivores, granivores ou généralistes. Les résultats, enfin le principal résultat, en 2022, donc 4 ans après l'interdiction des néonicotinoïdes, on observe que la population d'oiseaux insectivores a augmenté de 2 à 3%. Bon, c'est timide, hein. Parmi ceux-ci, on peut citer les merles, des fauvettes à tête noire et des pinsons, qui donc se nourrissent d'insectes à l'âge adulte, et aussi lorsqu'ils sont bébés dans leur petit nid, les parents leur ramènent des larves ou des insectes. Et effectivement, si les insectes ont mangé des insecticides, et les oiseaux après sont malades et meurent. L'équipe a aussi constaté d'ailleurs que le nombre d'oiseaux insectivores était inférieur à de 12% sur les sites qui sont traités aux pesticides par rapport à des sites où aucun néonicotinoïde n'avait été utilisé. On est en plein débat sur la loi du plomb et cette étude vient donc s'ajouter à toutes celles qui ont déjà montré la responsabilité de l'agriculture intensive dans le déclin des oiseaux. Des résultats encourageants, mais quand même à prendre avec des pincettes, en tout cas sur un point de vue scientifique. Les auteurs le disent d'ailleurs eux-mêmes dans cet avis. L'interdiction des pesticides ne suffit pas à elle seule à garantir un rétablissement immédiat de la biodiversité, mais ils ne disent pas ça pour infirmer leur étude, mais plutôt, ils appellent en parallèle à des mesures de conservation et de restauration supplémentaires, comme par exemple le développement de l'agriculture biologique. Allez, je vous ai parlé des oiseaux et du Brésil, et je vais abuser un petit peu et on va terminer en musique avec Você Abusou, justement, c'est Vinicius de Moraes, Maria Creuza et Toquinho, pour vous le reconnaîtrez certainement, la version originale de Fais comme l'oiseau. A très vite sur les ondes de Radio Escapade.
Você sofredor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Partido de mim.
Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et j'ai oublié de vous préciser quelque chose, demain sur les ondes de Radio Escapade à 15h, on vous propose un plateau exceptionnel qui sera réalisé depuis Montpellier, depuis le Club de la Presse, en collaboration avec Radio Languedoc notamment, et le tout sous l'égide de l'Assemblée Régionale des Radios Associatives, notre fédération régionale, l'ARA, puisqu'une enquête et surtout un rapport vient d'être fait suite à un travail d'un an et demi qui vient documenter et prouver, s'il en a été besoin, l'utilité sociale des radios associatives. Voilà un timing pas mal vu les soucis et les inquiétudes budgétaires qui pèsent sur le monde des radios associatives et sur le monde associatif en général. Donc on vous attend nombreux et nombreuses au poste pour nous écouter. Ça sera de 15h à 16h30 environ avec pas mal de reportages et de témoignages de différentes radios, mais aussi d'autres partenaires avec qui on travaille souvent. C'est l'occasion aussi de voir des fois le travail invisible qui se passe aussi hormis la musique et les super émissions qu'on vous propose. Voilà, vous savez tout.